M'excuse si je suis un peu en retard. Des ordinants passent avant tout. Hein. Alors, on en était resté à ce passage très mystérieux. Jacob qui passe devant son frère. Alors, c'est sûr, son frère avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Si on regarde bien les circonstances, évidemment, il était très fatigué, il n'en pouvait plus. On dirait qu'il n'avait pas donc pleinement conscience, donc au point de vue moral. Et c'est ça qui est terrible, terrible, et qui est très beau. Et que Dieu n'est pas un être moral. Et nous avons beaucoup de peine à comprendre ça. Nous sommes un être moral, mais nous devons dépasser la morale. Et nous devons l'acquérir. Nous devons acquérir la vertu de tempérance, la vertu de force, vertu de prudence, de justice et de prudence. On doit les acquérir. On a une peine énorme à les acquérir. On ne les acquérit jamais totalement et parfaitement. On les acquiert grâce à notre première formation. Ceux qui n'ont pas eu cette première formation. L'humanité d'aujourd'hui chez les jeunes, qu'est-ce qu'il y aura reçu cette première formation. Le grand mouvement moderne renvoie promener tout ça. Le nouvel âge. D'abord reprenez tout ça. Alors, ça peut avoir du bon. Mais attention au lendemain. La morale n'est pas tout. Et Dieu est au-dessus. Quand je dis que Dieu n'est pas un être moral, attention, corrigez tout de suite. Hein. Dieu ne demeure pas dans la morale. Mais Dieu veut l'acte moral. Dieu veut que nous soyons tempérants, que nous soyons forts, que nous soyons justes, que nous soyons prudents. Ces vertus viennent perfectionner la nature. La morale touche à la nature. Et la morale n'existe que parce que la nature tend à nous former pour être des hommes, pour être des personnes humaines. La morale se fonde sur la nature, rationnelle de l'homme, mais la morale se justifie en dernier lieu par l'amitié, la finalité première. Si je suis tempérant, si je suis fort, si je suis prudent, c'est pourquoi ? C'est pas pour le plaisir d'être tempérant, d'être fort, d'être prudent. si je suis tempérant, fort, c'est pour pouvoir développer en moi l'amitié. La première finalité qui dépasse le point de vue moral, c'est la finalité. C'est très difficile de maintenir l'amitié avec quelqu'un, un ami que je choisis comme ami, mais je m'aperçois qu'il n'a pas du tout de tempérance. Embêtant. Et qui n'a aucune force. Il se met en colère tous les 5 minutes. Il n'est pas du tout prudent. C'est pas ce que c'est. L'amitié réclame les vertus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme la vertu a très mauvais renom, les jeunes ne veulent plus cette vertu. Le Moyen-Âge est une révolte contre la morale. Ah, c'est sûr. La morale est très forte. Parce que on ne peut aujourd'hui, et je crois que c'est très net, on ne peut éduquer à la tempérance, à la force, à la prudence, que par l'amitié. La finalité qui donne le sens à cela. Alors, l'amitié est un au-delà de la nature, et c'est la personne. Alors vous voyez, c'est ça qui est très curieux dans les vertus morales, les vertus cardinales, quoi. Ces vertus fondamentales, ces vertus cardinales. Et elles sont un mitaxu entre la nature et la personne. Parce que elles existent pour l'amitié, la personne. Et elle s'enracine dans la nature. Et donc, si on avait à étudier aujourd'hui les vertus morales, il faudrait regarder ce métaxu entre nature et personne. Alors, on redonnerait une nouvelle couleur à la naissance de ses vertus. Et par l'amitié, on redécouvre l'autre finalité, Dieu. Alors, au sens strict, il a vendu son ordinès parce qu'il était dans une situation extrême. Donc, la morale et son frère a gardé cette morale, a gardé sa parole comme quelque chose d'absolu. Surtout la mère, plus que lui. Parce que Jacob est doux. Comparativement à Ésaü. Ésaü, il est le roux, il est dur. Mais quand même, c'est quand même très, très sévère. Cette parole dite en colère, dite de mauvais yeux, quand on est fatigué, vaut plus que la réalité. Alors, c'est pour nous éduquer que le regard de Dieu sur nous Dieu ne nous jugera pas sur nos vertus. Je crois qu'on peut dire ça. On va le répéter, mais il faut le savoir. Dieu ne nous jugera pas sur nos vertus. Il nous jugera sur l'amour. Alors, les vertus, dans la mesure où les vertus nous permettent d'aimer, Dieu nous juge sur ces vertus. Et c'est sur l'amour que Dieu nous jugera. Et Jacob, c'est très net. Et le Benjamin, je dis, c'est très net, l'amour d'amitié. Je crois qu'on peut dire ça pour supprimer le scandale. Parce que quand vous regardez ça d'une façon morale, c'est évidemment assez risqué. Le grec dirait, c'est une habileté. Et chez les Grecs, l'habileté, devant un homme très habile, on s'incline. Il peut vous rouler, mais il est très habile. Il fait ça très bien. Alors ça, c'est très grec. Mais on n'est pas en Grèce. On est à l'intérieur de la famille. Alors, il y a sûrement pour nous un enseignement à prendre là. C'est que, justement, l'amour dépasse le point de vue strict du point de vue moral. La mère se sert de ce fait que le vieux Jacob a dit il est en dehors, lui, c'est les deux frères. Et le vieux Jacob veut dire sa bénédiction. Et il est roulé. L'amour de la mère. C'est l'amour de la mère, je crois, qu'on veut mettre en pleine lumière et montrer que pour l'amour de la mère pour son fils, pour le petit Jacob qu'elle aime tant, rend la mère astucieuse. Et une astuce et en même temps une très grande force. Elle fut un acte extrêmement audacieux. Et tout le récit nous montre cette audace. C'est juste ça. Ça se termine juste au bon moment. Mais ça aurait pu durer 5 minutes de plus, tout aurait craqué. Alors je crois que là encore, c'est nous montrer que l'amour seul nous rend intelligents et d'une astuce. C'est vraiment une leçon d'un primat de l'amour. Et on peut s'en tirer. Il a vendu son droit d'aînesse, donc il l'a fait. Donc moralement, il a vendu son droit d'aînesse. La mère en a été témoin. Et donc la mère maintient le droit du cadet. C'est légitime. Vous comprenez? Dans une vision où on voit le gouvernement de Dieu qui veut nous apprendre le primat de l'amour, peut expliquer. C'est une ruse, mais à partir de l'amour et pour l'amour. Soyez rusés dans l'amour. Intelligence, c'est-à-dire intelligence pratique. Ne rien perdre. Être très attentif. Une ruse qui respecte le droit. Mais une ruse qui est au service de l'amour. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir. C'est de montrer ce primat de l'amour par la mer. Et c'est très beau que ce soit par la mer. Et alors, le primat de l'amour commande tout. C'est une façon magnifique de montrer ce primat de l'amour rappelé par la mer. C'est la mer qui en a eu le souci et qui en a eu l'audace. Jacob n'aurait pas eu par lui-même cette audace-là. Il était trop faible. Alors, n'est-ce pas le rôle de Marie ? Une préfiguration magnifique du mystère de Marie. Dans le gouvernement divin. Et parce qu'au fond, n'oublions pas que Marie à la croix va être co-rédemptrice. Elle est avec Jésus et elle va garder un certain rôle. Intelligence qui est au-dessus du point de vue strictement moral et qui regarde la finalité. La finalité de la mère, là, c'est de faire passer devant le petit Benjamin. Ne commet rien au-dessus. Elle ne peut pas l'expliquer. Il est trop tard. Le seul moyen, c'est celui-là. Mais, vous voyez, je crois que c'est un dépassement de l'amour. C'est très net, c'est le dépassement de l'amour qui prime. Mais l'amour n'a pas le droit d'être immoral. Il faut que l'amour soit moral. Il faut que l'amour ne s'accompagne pas de mensonges. Il faut qu'il s'accompagne d'une vérité. Mais d'une vérité qui peut apparaître. Une vérité qui peut apparaître comme un mensonge. Et c'est le cas. Ça apparaît comme un mensonge. Mais ça ne l'est pas. À cause de cette parole qui a été dite. Je crois que c'est quand même très intéressant et très important de regarder ça, parce que ces deux frères représentent, au point de vue hérédité, point de vue promesse de mon monde. Et parce que ça représente ces deux mondes, nous les voyons, nous. Et au fond, la victoire de l'amour a dû se faire avec une très grande astuce, une très grande intelligence. On voit bien. Si Jacob aurait été seul, ça aurait foiré. Il a vu. Tandis que ça montrait une très grande intelligence. Il a été soutenu. Il a frémi, hein. Il a frémi de passer comme ça devant son père. Façon mensongère, matérialitaire, matériellement d'une façon, pas si on regarde l'action du frère aîné qui a vendu son trottinette. Regardons tout de suite ce qui va se terminer. Années, Jacob veut retrouver son frère. Laban se leva de grand matin, embrassa tendrement ses fils et ses filles, les bénit. Il s'en alla, et Laban retournant chez lui. Jacob allait son chemin quand des anges de Dieu le rencontrèrent. Jacob dit, en les voyant, c'est un camp de Dieu. Et il appela ce lieu du nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers vers Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans la campagne d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici comment vous parlerez à mon seigneur, à Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai résidé chez Laban. Et j'ai tardé jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs et des ânes, du petit bétail, des esclaves, hommes et femmes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Et le retour de Jacob auprès de son frère représente quelque chose d'extraordinaire. La brouille était mortelle. Et c'est Jacob qui prend les initiatives de le retrouver. Il faudrait voir si cela nous éclaire dans les situations actuelles. Puisque c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est Jacob qui le désire. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers Ésaü, ton frère lui-même vient à ta rencontre, et il a 400 hommes avec lui. Jacob eut grand peur, et l'angoisse saisit. Jacob est très sensible, hein, ça se voit. Il est très sensible. Il répartit en deux camps les gens qui étaient avec lui, ainsi que le petit bétail, le gros bétail, et les chameaux. Il se disait, si Ésaü vient contre un camp et le bat, le camp restant pourra s'échapper. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Yahvé, toi qui m'as dit, retourne en ton pays et dans ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la loyauté que tu as témoignée à ton serviteur. Je n'avais en effet que mon bâton quand j'ai passé le jour-là. Et maintenant, je suis devenu deux camps. Daigne me délivrer de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il n'arrive et ne me frappe. La mère avec les fils. Or, c'est toi qui a dit, je te ferai beaucoup de bien et je te rendrai ta descendance comme le sable de la mer qu'on ne peut compter tant il est nombreux. Il passa la nuit en ce lieu, puis il prit sur ce qui était venu en ses mains de quoi faire à présent. Ésaü, son frère, 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chameaux qui allaitaient, avec petits, 40 vaches et des taureaux, 20 ânes et 10. Il les confia à son serviteur, troupeau par troupeau, séparément. Il dit à ses serviteurs, passez devant moi et laissez un espace entre chaque troupeau. Et au premier, il donna cet ordre, lorsque Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu. Où vas-tu? À qui appartient ce qui est devant toi? Tu diras à ton serviteur Jacob. C'est un présent qu'il envoie à mon serviteur Ésaü. Et voici que lui-même est derrière nous. Il donne le même ordre au second, puis au troisième, puis à tous ceux qui marchaient devant. C'est énorme pour la réconciliation. Hein. C'est, dit-il, en ces termes que vous parlerez à Ésaü quand vous le trouverez. Vous direz, et même, voici que ton serviteur Jacob est derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui me précède. Après quoi, je paraîtrai devant lui. Peut-être me fera-t-il bon accueil. Le présent défila en avant de lui. Lui-même passa cette nuit dans le cette nuit-là, il se leva, prit ses deux femmes, ses deux esclaves et ses 11 enfants, et il passa le gué de Yabok. Il les prit et leur fit passer le temps. Il fit passer aussi tout ce qui était à lui. Jacob resta seul. Un homme combattit avec lui jusqu'à la montée de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il toucha le creux de sa hanche. Et le creux de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il combattait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore est montée. » Jacob dit, « Je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il dit, « Jacob. » Il dit, « Alors, on ne t'appellera plus du nom de Jacob, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et avec tes hommes, et tu l'as emporté. » Jacob interrogea et dit, « Indique-moi ton nom, je te prie. » Il dit, « Pourquoi donc demandes-tu mon nom ?» Et là même, il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Penuel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se levait sur lui lorsqu'il passa Penuel. Il boitait de la hanche. Le soleil se levait sur lui lorsqu'il passa Penuel et il boitait de la hanche. Voilà pourquoi les fils d'Israël ne mangent pas jusqu'à ce jour le nerf sciatique qui est du creux de la hanche, parce qu'il avait touché le creux de la hanche de Jacob au nerf sciatique. C'est très curieux. L'explication posthume. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cette lutte avec Dieu. C'est un passage très important, puisque lutter avec Dieu est ne pas avoir été vaincu, a grandi, donne une valeur nouvelle. Alors, on peut expliquer ce passage de diverses façons. On peut dire que Dieu veut fortifier Jacob. Jacob a une frousse intense au rencontrer son frère. Il faut dire qu'Ésaü, évidemment, c'est une brute. Ésaü, tout manifeste que c'était quelqu'un de très fort, le chasseur, l'homme des bois. Et Jacob était beaucoup plus sensible, fragile. Et avant de rencontrer son frère, Dieu veut le fortifier. Et cette rencontre avec Dieu, c'est pour le fortifier. C'est très, très important de se rappeler ça. Les rencontres avec Dieu, ça peut être des luttes toute la nuit. Dieu nous fortifie et veut nous fortifier. Et Dieu, de temps en temps, descend dans l'arène pour lutter avec nous. On ne le sait pas, hein. Il ne sait pas si Dieu, il lui demande son nom. Jacob, levant les yeux, vit qu'Ésaü arrivait, ayant avec lui 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux esclaves. Il mit en tête les esclaves et leurs enfants. Léa et ses enfants derrière, Rachel et Joseph derrière. Lui-même passa devant eux et se prosterna 7 fois à terre avant d'aborder son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et il pleurait. Puis levant les yeux, il vit les femmes et les enfants. Il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Ce sont, dit-il, les enfants dont Dieu a favorisé ton serviteur. Alors s'avancèrent les esclaves, elles et leurs enfants. Elles se prosternèrent. Léa aussi s'avança avec ses enfants. Et ils se prosternèrent. Ensuite s'avancèrent Joseph et Rachel. Ils se prosternèrent. Ésaü dit, « Que veux-tu faire de tout ce camp que j'ai rencontré ?»« C'est, dit Jacob, pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « J'ai amplement pour moi, mon frère, garde ce qui est à toi. » Jacob dit, « Non, je t'en prie, si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu accepteras mon présent de ma main. » Puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu, et tu m'as agréé, accepte donc mon bienfait qui t'a été amené, car Dieu m'a favorisé. Et j'ai de tout. Et il pressa, il le pressa, et Ésaü accepta. Celui-ci dit, « Partons et marchons, je marcherai devant toi. » Jacob lui dit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que je dois penser aux brebis et aux vaches qui aillent. Si on les presse un seul, Seigneur passe donc devant son serviteur et moi je cheminerai doucement au pas du convoi qui est devant. Ésaü dit, permets du moins que je laisse avec toi quelques-uns des gens qui sont avec moi. À quoi seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » essayer de voir combien le pardon est une chose grande dans la miséricorde. C'est ce qu'il y a de plus grand, puisque c'est la miséricorde spirituelle de pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est accepter de voir toutes les conséquences de l'acte qu'on a pu faire et qui a fait mal. Et d'emporter toutes les conséquences. Alors, je crois que ici, le pardon, voyez, c'est la première fois, n'est-ce pas, dans l'Écriture, je crois bien, qu'on voit après cette jalousie farouche, le pardon. C'est donc quelque chose de très grand. Parce que c'est préfiguratif du Christ. Le pardon. Et je crois toute cette espèce de magnificence montrée des deux côtés, cette armée rangée en bataille, ces quatre, tout ça montre l'importance et la mise en scène de l'importance de ce pardon. Et au point de vue gouvernement divin, je crois que ça représente quelque chose de très important. C'est deux frères qui s'étaient blessés profondément, qui avaient mis l'autre dans une situation extrêmement pénible. Vous voyez, Jacob ne se sert pas de son droit d'aînesse. Parce que je crois que c'est pour qu'il reçoive le pardon de son frère, il s'humilie. Et Dieu l'humilie. La lutte. Tout est fait pour nous faire comprendre comment ce pardon doit se faire et jusqu'où se fait ce pardon. Il y a quelque chose de très net, c'est que Jacob ne se sert pas de son droit d'aînesse. Il se considère comme le serviteur de son frère. Est-ce que ce n'est pas ça que le gouvernement divin nous apprend? On demande le pardon, il faut s'humilier. Puisque le pardon est un acte mutuel, comme l'amitié, un acte qui se fait à deux, celui qui pardonne et celui qui demande le pardon. Et les deux doivent s'humilier et ne pas s'exalter comme étant supérieur.